Chapitre 32e, Brésil, le gaucho. Le gaucho est petit, trapu, maigre, osseux, anguleux. On dirait un homme inachevé, et c'est pourtant le plus complet des hommes. Si vous l'étudiez, vous ne tardez pas à vous apercevoir que tout est vigueur, résolution, intrépidité, intelligence chez lui. Il parle peu et par monosyllabes, mais son langage est tout dans ses yeux. Là est sa parole à lui, là est sa puissance. Le gaucho étonne du premier abord et l'on se dit « Voilà une charpente qui s'écroule, qui va tomber. » Le gaucho marche et vous trouvez la force et la vie où vous n'avez aperçu que la faiblesse et la mort. Il faut regarder parler un gaucho et non l'entendre pour le juger. Il faut surtout le regarder quand il vous dit certaines choses relatives à ses déserts, à ses plaines, à ses forêts, aux terribles ennemis qu'il a l'habitude de combattre. Le gaucho alors n'est pas seulement un homme comme vous et moi, c'est un maître, un dominateur. Il a 10 coudées au-dessus des têtes communes et il plane sur nous comme l'aigle sur l'espace. Quand le gaucho est calme, c'est le lion qui s'est repu. C'est la cataracte de l'hiver arrêtée dans sa chute. Mais que sa faim se réveille, mais que le soleil brise la glace, ou alors le désert est envahi. Et comme tout fuit et tremble devant la cataracte ou le lion, tout tremble aussi devant le gaucho. Le gaucho touche au Patagon par le climat, par les mœurs et par l'audace, et pourtant il en est l'antipode par la forme, car celui-ci est grand, taillé en athlète, imposant, parleur. Celui-ci semble vouloir animer les solitudes qu'il traverse. L'autre, au contraire, se met en harmonie avec elle et ne daigne répondre qu'au rauquement du jaguar ou à la voix de la tempête. Mais alors c'est le jaguar lui-même qui a peur et non le gaucho, car le gaucho a auprès de lui deux amis formidables avec lesquels il ne redoute aucune puissance au monde, deux amis qui ne le quittent jamais dès qu'il part pour des terres inconnues aux autres hommes, son cheval, son lacet. Le cheval du gaucho est petit et maigre aussi. Mais, comme maître, il est tout nerf, tout vigueur, et ses regards jettent des flammes ainsi que ses naseaux. Le coursier du gaucho s'imprègne de la nature de celui qu'il a dompté. Il obéit en esclave à son éperon, à sa main, à sa parole, car il se rappelle son dernier jour de liberté et ses vains efforts pour la reconquérir. Rien ne tue le courage comme une défaite. Le cheval du gaucho n'est pourtant pas un de ces esclaves dociles, abrutis qui se courbent et se taisent quand on leur ordonne de se taire ou de se courber, un de ces êtres privés de vouloir par l'habitude de la servitude et des chaînes, prêts à tout et principalement à la bassesse, à la turpitude. Non. Le cheval qui porte le gaucho est l'ami surtout de celui qu'il porte. Ce sont deux forces au lieu d'une. C'est une seule volonté au lieu de deux. Que le gaucho, en présence du jaguar, l'aiguillonne de l'éperon ou de la voix, le coursier ne fuit pas, car il devine, il comprend, il sait que sa honte sera celle de son maître, et si son maître et son ami succombent dans la lutte, il succombera avec lui, il mourra auprès de lui. On ne parle jamais du gaucho sans parler de son cheval. Plus il a eu de peine à le soumettre, plus il l'estime, plus il l'aime et le caresse. Le gaucho répudierait celui qui se serait soumis sans résistance. On peut avoir été vaincu par le gaucho sans être habili. L'ardeur de l'attaque et de la défense prouve deux courages. Ne voyagez pas avec un lâche. Celui-ci ne prendra jamais rien de vous. Et vous, vous pouvez avoir, sans le vouloir, prendre quelque chose de lui. Rien n'est contagieux comme les maladies de l'âme, et la peur est la plus communicative de toutes. On m'avait souvent parlé des gauchos en Europe et dans mes voyages. On m'en avait beaucoup parlé surtout au Brésil, lorsque j'assistais, devant le palais de Saint-Christophe, au dramatique duel d'un poliste avec un lancier polonais. Mais je me tenais en garde contre toute exagération, et je jugeais la gaucho comme ces fantômes nés d'une imagination vagabonde et puérile qui se rapetissent à mesure qu'on les approche. Lorsque plus tard, je me suis trouvé auprès d'eux, il a bien fallu les étudier, chercher à les comprendre, et je n'étais pas homme à en laisser échapper l'occasion. Dès le premier jour de mon arrivée à Montevideo, je m'enquis auprès d'un cafetier s'il y avait des gauchos dans la ville. « Il y en a toujours, » me dit la personne à qui je m'étais adressé. « Ils arrivent et s'en vont. Que viennent-ils faire ici ? Vendre des peaux de jaguar. Elles valent 4 ou 5 piastres. Qui tuent ces tigres d'Amérique ? Les gauchos, avec leurs fusils, avec leurs lacets et leurs couteaux. Et c'est pour 4 ou 5 piastres qu'ils affrontent de si grands dangers. Ces dangers, monsieur, n'existent point pour eux, et fût-il réel, le gaucho irait encore à la chasse du tigre, comme vous allez chez vous à la chasse au lapin. Le gaucho aime beaucoup l'argent. Lui, qu'en ferait-il? Il n'a pas de gîte à payer, pas de valet à nourrir, il vit au désert et couche à la belle étoile. Il mange du cheval, du tigre, de l'autruche, il boit de l'eau et ne demande des piastres en échange de ses peaux de jaguar que pour remplacer sa couverture usée ou son lacet ou son manteau ou la lame brisée de son poignard. Nulle vie au monde n'est pareille à la vie du gaucho. Et si vous m'en croyez, monsieur, vous ne partirez pas d'ici sans avoir étudié ces êtres exceptionnels qu'on ne peut cependant bien connaître qu'après les avoir suivis dans les plaines et les forêts. Je ne les y accompagnerai pas. Je ne vous le conseille pas non plus. Le soir même de cette conversation, j'appris que dans un vaste enclos de la ville, plusieurs gauchos avaient donné rendez-vous à un capitaine de navire chargé de porter les chevaux au cap de Bonne-Espérance et que ces intrépides dompteurs de coursiers en avaient conduit un troupeau. Je me rendis sur le champ au lieu où se faisait le marché et le capitaine acheta 32 bêtes magnifiques au prix de 2 piastres chacune. Encore le gaucho s'engageait-il à les transporter à bord du navire, mouillé en rade, à une grande distance de la ville. On voyait là 90 ou 100 chevaux pressés dans un coin, serrés les uns contre les autres dans la prévision du sort qui les attendait. Le marché venait d'être conclu, il n'y avait plus alors qu'un choix à faire. Pour cela, il fallait juger les chevaux à la course, et le gaucho se chargea de l'opération. Chacun de nous s'éloigna, se plaça sur une hauteur, et le gaucho, seul dans l'arène, poussa un cri en agitant son terrible lacet. J'avais oublié de dire qu'avant tout il était lui-même monté à cheval, et que son arme favorite était fortement bouclée à la bande de cuir qui lui servait de selle et posée elle-même sur une couverture de laine toute bariolée et parfaitement sanglée sous le ventre du cheval. Le lacet du gaucho est une courroie élastique longue de 15 à 18 brasses, dont les deux extrémités sont assujetties au coursier. Il le prend en main, par le milieu à peu près, de manière à ce que ses mouvements ne soient pas gênés, et de telle sorte que deux nœuds coulants au moins se dessinent à la partie qui flotte le plus loin. Quand le lacet est en repos, les nœuds sont naturellement fermés. Dès qu'on le fait tournoyer, l'ouverture se dessine et on ne le lance que lorsque le mouvement de rotation la tient constamment ouverte au-dessus de la tête. Tout cela tient du prodige, tout cela étonne, écrase, tout cela hait et tout cela semble la chose la plus simple du monde au gaucho. Suivons-le, là-bas, près du cimetière de Montevideo, assez près du rivage, où l'attendent d'autres distractions, où il va se livrer à d'autres délassements. Chez lui, le calme, c'est la mort. La vie qu'il s'est faite le déborde. Il faut qu'il s'agite avec violence pour que le désœuvrement n'attiédisse pas ses forces, et lorsqu'il repose, ses ennemis reposent aussi. Voici donc 5 ou 6 de ces hommes extraordinaires, assis d'abord sur le tertre qui borde la route sablonneuse et agitant diverses questions tandis que leurs chevaux paissent le gazon dans le pré voisin. Il s'agit de paris, d'enjeux. Ce soir, ce sont des piastres. Une autre fois, ce sont des quadruples. La partie sera modérée si les courses ne le sont pas. Il paraît que toute émulation sommeille aujourd'hui dans leur âme ou qu'ils ont envie de succomber au sommeil. N'importe, le gaucho ne restera pas longtemps dans cet état anormal et peut-être qu'à la lutte qui se prépare, il se réveillera avec toute son énergie. Un tuyau de faïence s'est posé à terre sur un caillou horizontal. Ce tuyau, de 10 pouces de grosseur, porte 12 piastres, car chacun des jouteurs en a mis 2. Puis ils se séparent et jouent à la plus courte paille, qui est le jeu universel, à qui commencera la course. Cela fait, chaque homme appelle d'un cri et d'un coup de sifflet son coursier, et celui-ci dresse l'oreille, bondit, et vient se frotter amicalement à son maître. Les cavaliers sont en place, ils s'éloignent, ils s'échelonnent, et le premier s'élance. Le cheval n'a point de selle, l'homme se cramponne de ses jarrets au flanc du quadrupède, qu'il dirige de la voix seule ou plutôt de la parole. Il passe au grand galop à côté du tuyau, et le cavalier, se courbant jusqu'à terre, doit enlever un certain nombre de piastres sans renverser le bois ou le tuyau de faïence sur lequel elle reposait. Le petit instrument tombe, l'argent est remis en place, et c'est au second cavalier à commencer la course. Ceci, c'est pour se mettre en train, pour prendre élan, pour se dégourdir. Et maintenant, c'est à l'exercice le plus difficile et peut-être aussi le plus périlleux. Il s'agit de dompter un de ces chevaux sauvages, aux jarrets fins et nerveux, embrassant l'espace avec la rapidité de la pensée, d'autant plus rétifs aux joues qu'ils ont eu de plus vastes plaines à parcourir, d'autant plus indociles à la voix de l'homme qu'ils ont souvent été réveillés au ténébreux rauquement du jaguar. La lutte est sanglante, terrible, ardente des deux côtés. Il s'agit de l'esclavage d'un coursier ou de la mort d'un homme. L'un et l'autre acceptent le sort qui les attend, et vous comprenez s'il y aura du courage et des efforts des deux côtés. Quand le gaucho a lassé et abattu un cheval loin d'un lieu propre au combat qu'il a provoqué, il le fait conduire ou porter hors de la ville, afin que le péril qu'il va courir ne menace que lui. Où va ce cheval lié par les pattes et par le cou? Dis-je un jour à un de mes nouveaux amis de Montevideo, près des glacis. Est-ce qu'on va l'abattre? On va le dompter. Qui? Ce petit homme qui suit le chariot. En viendra-t-il à bout? C'est un gaucho. Le connaissez-vous? Nous le connaissons tous ici. Est-il renommé? C'est un des plus célèbres. S'il manque un jaguar une fois, il ne lui est jamais arrivé de le manquer une seconde. Il a l'air bien tranquille. Aussi l'est-il en effet, et pourtant je suis sûr que la querelle sera vive. À quoi jugez-vous cela? Ce cheval a été essayé déjà par deux gauchos habiles qui ont renoncé à la tâche et qui vont être témoins du combat. J'en serai témoin aussi, moi, car je les accompagne. Je ne vous quitte pas, mais tenons-nous bien à l'écart. À vous entendre, on dirait un taureau furieux. C'est plus que cela, mon cher monsieur. Eh bien, nous verrons. Alerte! Alerte! En ce moment, le dur licol qui serre à demi la tête est dénoué. Les courroies qui retenaient les jambes captives sont enlevées à la fois par deux hommes qui se sauvent après l'opération et le gaucho qui va lutter se tient debout, touchant le ventre de son animal. Celui-ci, que l'esclavage de ses jarrets avait rendu immobile, essaye encore, mais sans effort, un mouvement de liberté. Ciel! Ses pieds jouent, il doute et recommence, ses naseaux s'enflent, ses yeux s'animent, il se dresse comme frappé de vertige en sentant sur son dos un poids inaccoutumé. Il bondit pour être plus libre, et le fardeau retombe avec lui. Le fougueux coursier n'a ni selle ni couverture, le cavalier a gardé ses éperons, point de frein à sa bouche, point de guide à la main. Il y a un moment de calme, de réflexion. Chacun des deux lutteurs s'étudie, s'observe, se mesure. Celui qui est dessus saisit la crinière flottante, celui qui est dessous cherche par de rapides chocs à secouer ce nouvel obstacle, mais cet obstacle est le bras d'un gaucho, et à moins qu'il ne soit brisé, il ne lâchera pas prise. Un hennissement se fait entendre, puis un cri lui répond. C'est comme un appel, un défi accepté. Le cheval se dresse verticalement, le gaucho ne tombera que si le cheval tombe aussi. Eh bien, le cheval se roule à terre et tandis qu'il a fait un demi-tour à droite, le gaucho, collé à lui, fait un demi-tour en sens contraire et évite d'être foulé sous la masse. À ce jeu, le cheval se lasse plus tôt que le cavalier. Aussi le devine-t-il et essaye-t-il une nouvelle manœuvre. Il est maître de l'espace, lui. Voyons si l'homme qui veut le vaincre pourra résister à ses élans. Suivez-le de bien loin, mais gare. Ce n'est pas une course, c'est un dévergondage, un délire bachique. Il saute, il rue, il tournoie. Il s'allonge, se rapetisse, il s'élance dans un fossé, gravit une côte, se précipite de nouveau vers la base, et il roule sur le gazon ou sur les cailloux. Le gaucho est fait à ses violences, à ses fureurs, et n'abandonne pas la crinière, et de ses éperons aigus, il déchire les flancs du coursier. En cours debout, tous les deux, encore un temps de repos. La terre ne peut venir en aide au fougueux quadrupède. Il s'élance dans les eaux et veut noyer son adversaire. Le gaucho est plus dominateur là qu'autre part. Il faut revenir sur la plage, où la lutte recommence avec une nouvelle colère, avec de nouveaux efforts, et toujours le dos du coursier reçoit le maître. Enfin les yeux s'abattent, les naseaux se ferment, le cœur bat moins violemment, les jarrets se taisent, la main du gaucho donne un dernier mouvement. Le cheval, à demi vaincu, obéit pour la première fois. Il part. Le gaucho se baisse et ramasse à terre le frein qu'il y a fait déposer. Il s'allonge, il le présente à la bouche, on n'ose pas lui résister. Il a un compagnon. Il règne au désert.